Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade mélomane, c'est Rhône.
Et bienvenue dans la Beatsbox.
Bonne nouvelle, la SF revient en force, que ce soit à la télé avec diverses séries, sur le grand écran avec Premier Contact, Star Wars, Star Trek, Blade Runner ou même Alien, ou bien sur nos consoles et PC avec l'arrivée conjointe de Halo Wars 2 et Mass Effect Andromeda, il y en a partout. En ce qui concerne notre média chéri, on peut cependant dire que la SF a toujours été là, et ce depuis que les jeux vidéo existent. La beauté de ce genre, c'est qu'il peut se décliner dans une multitude de types de jeux, et ça tombe bien, parce que la diversité, à la Beatsbox, on aime ça.
Allez, accrochez-vous, on vous embarque dans notre vaisseau spatial vers une galaxie lointaine pleine de musique. Alors laissez-vous aller, et si l'envie de fredonner vous démange, ne vous inquiétez pas. Dans l'espace, tout le monde vous entendra kiffer. Dans la SF, certaines œuvres ont marqué les esprits au fer rouge, et autant vous dire que Blade Runner fait partie de cela. De par son esthétique, sa mise en scène et son histoire, le film culte de Ridley Scott, alors au sommet de son art, continue encore aujourd'hui d'inspirer les artistes du monde entier. Alors on peut pas en dire autant du reste de sa filmographie, mais en tout cas Blade Runner fait partie de cela.
Oh quand même, il y a du bien chez Ridley Scott quand même.
Il y a Alien, et il y a Blade Runner, mais c'est que dans la fin de sa carrière, c'est un petit peu plus compliqué quand même, hein. Mais bon.
Bon, ok.
C'est mon avis. Mais bon, le père Ridley était meilleur dans les années 70-80 que dans les années 2000. Mais bon, voilà. C'est un petit peu mon avis. Et là, le pauvre Ridley, je pense qu'il est sur une grosse pente descendante. Mais bon, on va s'arrêter là. En 1988, c'est Hideo Kojima qui, en grand cinéphile, décide de rendre hommage à l'œuvre culte de Papa Alien en développant Snatcher, un roman interactif racontant les aventures de Gillian Seed, nouvelle recrue chez les Junkers, une unité spécialement mise en place pour retrouver les Snatchers, êtres mi-hommes, mi-machines, qui tuent les humains avant de prendre leur place dans la société. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Ron?
Avec peut-être une invasion de profanateurs de sépultures?
Oui, et peut-être même un tout petit peu de Cameron derrière, avec un, tu sais, un espèce de robot en métal, avec de la chair humaine par-dessus, qui va essayer de tuer des gens. On sent quand même que, déjà à l'époque, Kojima était un fin fou de cinéma et qu'il voulait justement proposer des œuvres interactives. Titré Cyberpunk Adventure, le jeu de Kojima se joue à la troisième personne, alors avec pas mal de cinématiques, hein, rappelez-vous, hein, Kojima, tout ça, cinématique, je pense que c'est un petit peu synchrone, et oui, déjà à l'époque. Donc là, dans les cinématiques, on voit parfaitement le héros. Kojima mettait déjà son empreinte sur le jeu vidéo. Et pour accompagner cette aventure presque 100% textuelle, la Konami Kukuhai Club, ça se dit Kukuhai Club, a travaillé sur la bande-son. Alors, c'est une bande-son qui, je trouve, assez folle et qui soutient parfaitement la volonté de Kojima de faire une œuvre cinématographique et immersive. Je vous rappelle, on est en 1988, et là, on vient d'écouter One Night in the Neo Kobe City, très chouette morceau qui mélange des sonorités électro avec un petit peu de jazz. Ça fonctionne vraiment très bien, et surtout, ça arrive sans peine à installer une superbe ambiance et à caractériser la ville, parfait pour débuter cette émission. Allez, on continue dans la science-fiction, et c'est bizarre, on va sur une console Sega.
Oh tiens. D'écouter Nos Spectres, morceau du deuxième niveau de À l'Est, qu'on appelle aussi Moucha. Alors Moucha, ça veut dire Metallic Uniframe Super Hybrid Armor. Alors attention, ça ne déconne pas. Donc ce jeu, c'est tout simplement un de mes jeux de shoot préférés de tous les temps, toute machine confondue, toute époque confondue. C'est un jeu qui est génial. Super dynamique, plein de couleurs. Alors pourtant sur Mega Drive il y avait de la concurrence, mais c'est celui-là qui a le plus tourné à la maison. Et j'ai eu beaucoup de mal à vous sélectionner un morceau, tant l'OST de ce jeu, composé par Toshiaki Sakoda, défonce. Alors bien sûr, hein, vous avez vu, c'est du gros rock, ça tabasse la tête, ça donne envie de tout détruire, et quoi de mieux dans un shoot'em up quand on a envie de tout détruire, hein. Et sur le travail qu'a pu faire cet auteur, alors il a déjà travaillé sur pas mal d'autres jeux, mais c'est vraiment celui-ci qui est sa masterpiece, que je recommande très très chaudement d'aller récupérer et d'écouter. Vous aurez sans doute du mal à vous en remettre, d'autant plus qu'on a un nouvel exemple d'une très très bonne utilisation du son pur Mega Drive, quoi. Tout à fait idéal pour faire ces espèces d'imitations de guitare, ça ne pourrait pas être de la même façon sur Super NES. Et le son de la Mega Drive renforce encore le côté brutal de la musique. Enfin bref, vous avez compris, hein, moi je commence tout de suite par un morceau que j'adore. C'est sur Mega Drive, c'est sur Sega, et je vous ai balancé une sacrée dose d'énergie avec ce Moucha à l'Est. Bon, je vois qu'il y en a qui sont déjà un peu fatigués par l'énergie de cette musique, alors je vous propose de vous reposer un petit peu avec un tout autre son bien plus calme. Thank you.
Alors cette fois, nous sommes allés dans le monde de Monochroma, un jeu indépendant bien sûr, sorti en 2014 sur Xbox One et PC. Hop, un petit jeu indé qui passe par là et tout de suite dans la Beatsbox. Donc Monochroma, on est dans une SF beaucoup plus sombre, qui décrit un monde qui est triste, réellement triste, et dans lequel les enfants sont devenus comme une marchandise, un objet qu'on convoitise, et l'histoire va être celle d'un grand frère qui va tout faire pour protéger son jeune frangin. Donc dans une représentation graphique qui fait beaucoup penser à Limbo, ça joue beaucoup sur les ombres, mais c'est pas la même ambiance, c'est pourtant autre chose. Et moi c'est un jeu que j'ai bien aimé parcourir, malgré sa noirceur et aussi un message peut-être un poil caricatural, mais je vous en dis pas plus, parce que finalement s'il y a eu un petit peu d'envie qui allait chez vous, je voudrais vous laisser la surprise de ce titre.
En tout cas, moi, l'envie, tu l'as créé, parce que je connaissais pas du tout ce jeu, et entre la musique et ce que tu décris, ça me donne envie de tenter la chose.
Bah, ça peut, c'est ça qui est beau avec les indés, hein, ça doit coûter 10 balles, j'en sais rien, un truc comme ça, et on prend pas grand risque, finalement, à s'y essayer.
Ouais, c'est
et
clair.
Bon, attention, hein, je parle pas d'un jeu absolument génial, mais moi, je l'ai trouvé agréable. J'en ai quand même ressorti quelque chose. Et alors sa bande son n'est pas très longue, hein. Là le morceau que je vous ai passé c'est l'intro du jeu, et la musique pendant le jeu elle est plutôt rare, plutôt discrète, mais du coup quand elle arrive, c'est la beauté de tous ces jeux qui utilisent finalement peu de musique, elle renforce l'ambiance du jeu en mélangeant un petit peu différentes choses, c'est-à-dire qu'on va ressentir le sentiment du héros pour son frère, cette musique n'est pas que triste, hein, vous l'avez entendu, il y a de la douceur dedans, mais dans le fond, il reste toujours une certaine noirceur qui va traduire ce qu'on voit dans cet univers. Donc c'est un petit peu folk, mais en même temps, ça reste très très noir. Et ça a été composé par le groupe Gavin Day. Alors voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, j'ai pas trouvé grand-chose sur ces gens-là. Bon, c'était Monochroma. J'ai déjà attiré la curiosité de Creeper. Si j'ai attiré la curiosité de 2-3 autres, eh ben tant mieux. Un petit peu de SF comme ça, pessimiste, bah ouais, c'est bien aussi. C'est ça la SF, après tout. On va un petit peu changer de registre pour le coup, hein. On était dans le pessimisme, moi je vous propose maintenant d'aller à fond dans l'optimisme.
Vous l'avez vu, on reste un petit peu dans une musique un peu triste, hein. C'est pas le morceau c'est pas le morceau le plus joyeux du monde. Alors on a écouté une musique tirée de Subject 13, sorti en catimini en 2015. Alors il avait fait un tout petit peu parler de lui parce que c'était le nouveau jeu de Paul Cuisset, le génial créateur de Flashback, Motoracer, de Croisière pour un cadavre, donc voilà des jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Voilà, on va être honnête, Subject 13, c'est pas un jeu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Paul Cuisset est revenu au jeu vidéo un peu, on va dire, par la petite porte, en essayant, c'est un peu le revival maintenant des anciens créateurs français de jeux vidéo. Donc ça va pas laisser un souvenir impérissable. Moi, j'ai passé un agréable moment, on va dire, sur la durée. On en parlait avec Ron, il y a quelques petits problèmes de gameplay, c'est
ouais, quand même.
Peut-être un petit peu trop à l'ancienne, c'est-à-dire que des fois les gens aiment bien les retours aux sources, mais c'est là où on voit quand même que le jeu vidéo a avancé, et il faut peut-être réussir à progresser avec lui, parce qu'autant certains jeux indés arrivent à mélanger l'ancien avec le nouveau, autant là on est vraiment sur le jeu d'aventure vraiment old school, point and click vraiment à l'ancienne, avec des mécanismes un peu chelous, il faut vraiment penser les énigmes d'un petit peu de traviole, et parfois quelques petite pétouille au niveau du gameplay aussi. Donc voilà, si en tout cas elle ne marque pas les esprits de manière générale, Subject 13 m'avait bien marqué aussi par sa musique.
Ah, donc de chialer là.
Voilà, Olivier de Rivière, et je trouve que le compositeur a bien capté l'essence du personnage et sa psyché, c'est-à-dire qu'il est un peu perdu, il est un peu tout seul, il sait pas trop où il va. Et du coup dans le morceau il y a une véritable mélancolie, on sent une perte de repère chez le personnage de Franklin. Donc la musique s'appelle justement Theme of Franklin. Donc voilà,
c'est bien fait quand même.
Theme de Franklin, donc quoi, la vie est plutôt bien faite. Voilà, c'est un morceau que j'aime bien et j'adore l'écouter de temps en temps. Voilà, alors je referai pas le jeu, autant la musique j'aime bien l'écouter, autant le jeu voilà, je ne le referai pas je pense. Mais voilà, Subject 13 au moins on en aura parlé une fois dans l'émission, et ainsi que de Paul Cuisset, une personne que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est particulièrement gentil et qui partage énormément sur sa passion du jeu vidéo, sur ses créations, avec pas mal d'anecdotes. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de parler de quelques-unes sur chaque fou par exemple, mais je vous garde le secret. Donc voilà, on a parlé de Subject 13 et on va changer complètement, mais alors complètement d'ambiance, avec un titre là encore indépendant et encore une fois sur PC. D'écouter un morceau de Butcher et ça bute. Faut y jouer les amis, il faut jouer à Butcher. Alors je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même parler un tout petit peu plus parce que c'est un peu le but de l'émission aussi. Donc on va continuer de parler de cet excellent titre indé développé par Transhuman Design. Et pour faire simple, on joue le rôle d'un Terminator qui a pour mission de supprimer l'humanité. Pas plus, pas moins. C'est clairement un vrai Terminator. Vous avez l'œil rouge, le côté humanoïde qui avance et qui fracasse tout le monde et qui dit Sarah Connor dès qu'il croise une meuf. Voilà, c'est un jeu que j'adore. C'est un pur shoot d'adrénaline. C'est une sorte de Doom en 2D qui va mettre vraiment les réflexes à rude épreuve, un peu comme le dernier Doom qui vraiment faisait ressortir notre côté un peu animal, bestial, où il y a un côté survie qui est vraiment à fond. Et donc ça se joue alors, soit à la souris, soit à la manette. Alors vu le système de visée, la souris ça se maîtrise plutôt bien, parce que là du coup faut être vraiment extrêmement rapide. Et le message est clair dès le début, on vous dit le mode le plus simple, c'est le mode difficile.
D'accord.
Donc là, on te ment pas sur la marchandise. Dès le premier niveau, tu te fais éclater parce que tu dis je vais y aller pépère, hein, c'est le premier niveau, tranquille.
Et c'est lent,
t'as le premier ennemi qui arrive, il te défonce ta gueule, hein, tu te prends un coup de shotgun et t'es mort. Et tu finis en chair à canon, et donc là, tu dis allez, tu te ressaisis, tu dis allez, c'est parti, on rigole plus, et on fonce dans le tas, et c'est ultra jouissif, et plus on avance, plus c'est dur. Alors c'est dur, pas décourageant, parce que franchement les niveaux sont extrêmement bien faits, donc il y a vraiment moyen de progresser très rapidement, de devenir une vraie machine à tuer. Donc, moi je vous conseille Butcher, et en plus, ça tombe bien, parce qu'on est dans la Beatsbox, la musique elle défonce aussi. Et donc c'est une musique composée par Maciej Nijelski. Alors j'ai pas trouvé énormément de choses sur ce compositeur, alors en fait j'ai découvert quand même que c'était un pianiste ou un joueur de clavier pour un groupe de métal gothique polonais, Arthrosis.
Voilà. Putain.
Ah ouais, j'ai fait des recherches, attention, je suis un fou. Quoi. Donc j'ai au moins essayé de gratter quelques informations, qu'il était dans la formation de ce groupe depuis vraiment de nombreuses années. Et sur Butcher, on retrouve justement, je trouve, cette influence un peu gothique, un peu industrielle, un peu poisseuse. C'est lourd, c'est pesant, voire même parfois étouffant, mais en tout cas, dans l'action, ça envoie le pâté, je trouve qu'il a vraiment fait un boulot remarquable. Allez, on quitte la 2D. On retourne dans une atmosphère assez glauque quand même, et c'est une musique que j'adore.
Depuis le début, on n'a peut-être pas passé les thèmes que vous attendiez en termes de SF, les plus connus, mais il en fallait quand même. Et là, vous avez forcément reconnu le thème principal de Deus Ex Human Revolution, hein, sorti en 2011 sur PC, PS3, 360. Un jeu qui est quand même mythique, cette série, Deus Ex, d'abord parce qu'elle a inventé quelque chose avec son premier jeu qui laissait la part belle au principe de choix. En décrivant une société qui fait beaucoup penser à ce type de SF où ce sont les grands trusts commerciaux qui ont pris la domination du monde, qui décident de tout. Bon, c'est quelque chose qui est relativement classique, mais qui est très très bien rendu dans la série Deus Ex, y compris dans le deuxième opus qu'on a pour habitude de détester.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il était surtout différent du premier. Hein. Je sais que les PCistes disent « Ah non, c'est pas vrai, on a été trahis, tout ça. » Mais jouez-y quand même, vous allez voir que c'est pas si mal. Et ce Deus Ex Human Revolution, lui, était un très chouette jeu qui décrivait un univers ultra cohérent avec quelques petits relents de Blade Runner dans ce qu'on peut voir, ce qu'on ressent d'ailleurs aussi très fortement dans la musique qui est absolument splendide. Hein. Mon ami Creepers me le disait, ah ouais. Il adore cette musique.
Ce thème, moi je trouve la montée en puissance absolument géniale. Et essayez voir de mettre ça, vous marchez dans la rue avec cette musique, t'as l'impression de vivre un moment de ouf, quoi. C'est moi, je la trouve formidable cette musique, mais vraiment la façon dont elle progresse, elle se déploie et la fin elle est juste magique. J'adore ce morceau.
Oui, bah c'est vrai que ça fait du bien et ça colle tellement bien au jeu. Alors c'est Michael McCann qui a livré ce superbe travail. Alors si vous vous rappelez, j'avais déjà passé un morceau de ce monsieur dans notre premier épisode de la Beatsbox, Spy vs Spy, que je vous invite à réécouter, hein, puisque c'était lui qui avait composé l'excellente BO de Double Agent, de Splinter Cell.
Une des rares musiques qui vient de Splinter Cell.
Moqué à ce moment-là par Creepers, qui essaye encore hein, de la placer, alors que maintenant la démonstration est quand même faite que c'est un superbe artiste.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est l'OST dans son ensemble hein, qui est très très bonne sur Deus Ex Human Revolution. Ça semblait impossible dans un épisode spécial SF de ne pas parler à un moment donné de Deus Ex qui représente tout de même toute une portion de la science-fiction, que ce soit en littérature, cinéma, celle de la société futuriste écrasée par les trusts commerciaux. Allez, pour la suite, ça va être ma petite page cinéma avec un superbe chef-d'œuvre. D'écouter la musique de fin de Starship Troopers. Alors là, Starship Troopers, franchement,
ah ouais.
Si c'est pas quelque chose de fantastique,
vous pouvez pas le voir, mais là je suis à genoux, hein, comme dans Wayne's World, je suis tout petit, on est à chier. c'est Starship Troopers, quoi.
Alors le film est sorti en 98 des mains dorées de Paul Verhoeven, le patron de la SF à cette époque, puisqu'il a quand même enquillé Robocop, j'ai beaucoup hésité à vous passer le morceau de Robocop, et Total Recall. Donc autant vous dire que c'était quand même du très très lourd. Et finalement c'est Starship Troopers que j'ai préféré passer, parce que c'est un film où il y a eu un petit peu de controverse autour, une controverse pour rien j'ai envie de dire. Qui a surtout été provoqué par, j'ai envie de dire, des gens pas très malins, quoi.
Ah oui, ça c'est clair.
qui ont taxé le film de fasciste, alors que bon, bien entendu, c'est à peu près l'inverse qui est décrit dans ce film-là. Et ça fait partie de ces films qu'on peut revoir, revoir et revoir parce que c'est très très malin. On peut voir ça juste comme un film d'action et c'est super bien. De l'action, déjà, il y en a. Ça défouraille, c'est très très bien réalisé. Les aliens ont une allure terrible. C'est gore, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et si on veut, on peut aussi regarder ça en essayant de réfléchir un tout petit peu sur ce qu'on voit à l'écran. Et là, on va se rendre compte de plein de subtilités qui apparaissent. Alors bon, évidemment, il y a les choses évidentes, comme la critique de la société à travers les publicités. Hein. Verhoeven, on sait qu'il aime bien ça. Mais il y a aussi des petites choses en sous-texte qui changent l'éclairage du film. Comme par exemple, ben, c'est pas si sûr que ce soit les aliens qui soient les méchants dans l'histoire. Si on écoute bien le début, c'est pas dit. On se rend compte aussi que pour avoir le droit de vote, il faut être militaire et apprendre à tuer, par exemple. Voilà, il y a des tas de petites choses comme ça dans ce film qui sont très intéressantes. Visuellement, c'est une tuerie, ça joue sur tous les codes de justement caricaturaux de la SF, hein, avec Casper Van Diem, bon, déjà, rien que le nom, quoi.
Déjà, ouais.
Il y a même Michael Ironside, franchement, si c'est pas une raison aussi de regarder le film. Enfin bref, Starship Trooper, si vous ne l'avez pas vu, eh ben, c'est un trou dans votre culture, il faut absolument le regarder. Pour ce qui est de la musique, eh ben, c'est ce bon vieux Basil Poledouris qui s'y colle, hein, comme sur plusieurs films de Paul Verhoeven. Bien sûr, la musique est guerrière jusqu'à la caricature, ce qui tombe bien, puisque c'est exactement le propos du film. Et bon, il n'y a pas à chier, ça fonctionne très très bien. On quitte le cinéma, on revient dans les jeux vidéo pour un bon vieux jeu d'Alien old school.
Xénophobe 1989, on est dans l'espace et on doit nettoyer des vaisseaux squattés par des aliens visqueux. On est dans la pure SF tendance alien avec des strums qui crachent de l'acide pour nous éliminer. C'est sur Atari 2600 que j'ai découvert ce titre qui d'ailleurs était jouable à deux en écran splitté. Et ouais, Atari 2600, ma première console, ma première machine de jeu, c'était une Atari 2600.
J'ai pas qu'il existait dessus, hein. C'est fou quoi, qu'il ait duré aussi longtemps dans le temps ce jeu.
Ouais, puis t'avais la jaquette, t'avais un gros monstre tout vert dessus, parce qu'il y a eu plein de versions différentes hein, de Xenomorph, c'est sorti sur plein de machines différentes, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu du mal à choisir la version, parce que toutes les musiques étaient plutôt chouettes, il y avait plein de versions assez sympas qui avaient leur charme à chaque fois, mais donc là d'ailleurs je suis parti sur la version Atari ST, Mais c'est sur Atari 2600 que j'ai découvert ce titre et c'est bah du coup mon premier jeu en coopération. Parce qu'on pouvait jouer en écran splitté, et oui à l'époque, même sur les consoles qui étaient assez légères techniquement, il y avait l'écran qui était séparé au milieu et on pouvait partir à gauche et à droite et éliminer tous les monstres du vaisseau. C'était assez chouette. J'en garde vraiment un très bon souvenir moi, de Xenophobe, et c'est un des derniers jeux justement Atari 2600. Alors concernant la musique du jeu, donc comme j'ai dit, j'ai choisi la version Atari ST qui est composée par Barry Leitch, et oui, rappelez-vous, on a déjà parlé dans d'autres émissions, et ouais, un habitué de la Beatsbox. On en avait parlé justement pour Horizon Chase et encore Top Gear, donc deux jeux de course dont les musiques sont absolument folles, et encore une fois, avec les moyens du bord, bah, le monsieur, il a fait de l'excellent travail. Mais c'est trop bien, c'est à mon tour de parler cinéma. Allez, on sort le chapiteau. Alors déjà, si vous avez reconnu la musique de ce film, eh ben je vous aime. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, de vous faire un gros câlin et de vous dire bravo, vous avez du goût. Vous avez reconnu la musique de Killer Clowns from Outer Space. Eh oui, un film avec des clowns qui viennent de l'espace pour nous bouffer. Alors j'ai du mal à choisir hein, le film, mais c'était mon premier choix. Alors après, je suis parti sur plein de trucs différents, dont même Jason X. J'ai failli vous passer du Jason X, mais non, je suis revenu sur mon premier choix parce que j'adore ce film. Je trouve franchement que c'est... Ah, déjà, il est unique. C'est un film d'horreur, ça, un film clair. De science-fiction, avec des clowns qui sont là pour nous bouffer. Et le film garde vraiment un côté... Alors, c'est bizarre, parce qu'il y a un côté un peu joyeux, un peu inquiétant. Il y a un équilibre qu'ont réussi à trouver les frères Chiodo. C'est leur premier film. C'était des experts en effets spéciaux. Et les mecs ont fait un film, un seul. Et je trouve que c'est, encore maintenant, une véritable curiosité qui fonctionne très très bien. Alors, ce qui est génial... Seul, ouais. Exactement. Ça se suit avec un véritable plaisir. Et ce que j'adore dans ce film, c'est qu'avec 2 millions de dollars de budget, on sent que les mecs, ce sont vraiment des cadors dans les effets spéciaux, parce que tu vois quasiment pas que ça coûte aussi peu cher. Et les décors, les effets spéciaux, justement, et même les déguisements des clowns, on voit que c'est des personnages qui ont été complètement créés, mais ils vivent, quoi. On sent vraiment qu'ils vivent, et même la façon dont ils tuent les êtres humains, c'est excellent, parce qu'ils les transforment en barbe à papa géante, donc il y a tous les gags un petit peu liés au cirque qui fonctionnent super bien.
Et ce que j'adore dans... avec le marteau, le marteau coup de poing.
Oui, le marteau coup de poing.
Absolument remarquable.
Et il y a plein de petits détails comme ça qui fonctionnent bien. Et ce que j'aime vraiment, et ce qui manque un peu au cinéma, on va dire, d'exploitation d'aujourd'hui, c'est que donc non seulement c'est vif, c'est inventif, c'est drôle, mais en plus, c'est pas cynique. À aucun moment on se moque d'un genre, parce qu'on est vraiment dans, on va dire, le cinéma un petit peu des années 50 avec des monstres un petit peu chelous, mais à aucun moment les mecs se moquent du cinéma d'exploitation, et au contraire ils arrivent à créer un film qui a sa propre identité et qui passe pas son temps à mettre des petits coups de coude, des clins d'œil, ouais t'as vu, t'as reconnu, le machin, on rend hommage à tel ou tel truc. Non, le film se suffit à lui-même et il vit vraiment tout seul. Et c'est une véritable curiosité que je vous invite à découvrir. Alors c'est un petit peu compliqué à trouver, je crois, peut-être en DVD ou en Blu-ray. Et si vous pouvez dénicher Killer Clowns from Outer Space, foncez dessus si vous êtes curieux, parce que c'est de la balle. Alors maintenant que j'ai manifesté pour que vous regardiez tous Killer Clowns from Outer Space, on va rester dans la manifestation, dans la propagande, avec le jeu suivant. Harakiga on the goodness to Rafidan. And the Kerry Amahadis in the Cedar Club. In the car, get the north, get the stern alarm. And the Rakiava, I hate on the game. Propaganda! Just to be me! Propaganda! Just to be me! Propaganda! Just to be me! Propaganda! Just to hit! Propaganda della seta che aveva da non mo' che cava nella città da ricchina ma la po' e che cava in sera da carichina ma ha e che da poi ne gava lì non sei in lava e che da piano con la tela e da cava che riesce e che da cava da non ricca e ma non ricca lo e che da chi si sa lo tu a ricca e no e da chi ha lo tu si a te ricca ne gomara propaganda.
C'était le morceau Propaganda tiré de Beyond Good and Evil, un jeu sorti en 2003 sur Xbox, GameCube, peut-être même PS2, je me rappelle plus trop. C'est un morceau qu'on entend quand on est dans le bar, hein, c'est un des morceaux qui est diffusé. Alors, qui a été difficile à choisir, hein, parce que l'OST est très très riche sur ce jeu. Bah tiens, je vais commencer par parler de ça. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le morceau, et finalement c'est celui-là que j'ai retenu, parce que quand j'ai réécouté l'OST, je me suis rendu compte que le lendemain, au boulot, j'étais en train de chanter « Propaganda ». Je me suis dit « Bon, ok, c'est celui-là qu'il faut prendre ». Je crois que ça y est, c'est bon, c'est celui-là. Donc, la BO, elle est l'œuvre de Christophe Héral, qui a fait un travail absolument formidable, qui mélange beaucoup de world music, mais parfois aussi des morceaux plus symphoniques, en utilisant des mélanges de langues. Par exemple, le Propaganda qu'on vient d'entendre, hein, il est une dominante bulgare. Eh oui.
Donc Christophe Herald, c'est pas un inconnu, hein, puisque c'est celui qui a travaillé sur les Rayman, et en particulier sur Rayman Origins, dont j'adore la musique.
Gros travail, hein. C'est d'une richesse. Absolument.
Ah, c'est exceptionnel. Alors, pour revenir un petit peu sur le jeu en lui-même, eh ben, j'ai envie de dire, et si on parlait d'un des meilleurs jeux jamais faits, en tout cas, c'est mon avis.
C'est
Ah ouais, moi j'adore Beyond Good and Evil, je l'ai fait plusieurs fois, et pour moi c'est très très enchanteur. C'est
en plus,
Michel Ancel qui a fait ça. Ouais.
Tu dis que c'est le plus grand jeu jamais fait, bah justement, je l'ai jamais fait.
Ah bah voilà, c'est ça, même pour toi ça marche, c'est quand même bien foutu.
Ouais, oui.
Donc c'est Michel Ancel qui est aux commandes. Et ça nous donne un univers qui est très touffu, qui est très profond, mais sans jamais oublier le fun, grâce à des couleurs chatoyantes dans les décors, dans les personnages, et même dans des designs qui font parfois penser au Tim Burton de ses débuts, avec des rayures de couleurs, des choses comme ça. Donc c'est un aspect un petit peu cartoon, un petit peu fun, mais qui dans le même temps décrit un univers qui lui est fondamentalement très triste. Où les gens sont un peu, le morceau propagandal traduit bien, hein, sont un peu des laissés pour compte pour l'essentiel, où tout le monde est contrôlé. Et malgré ça, c'est la célébration de la vie qui ressort du jeu. On doit prendre des photos de toutes les races encore vivantes, tous les personnages sont hauts en couleur et il y a plein de rebondissements dans la quête. Bref, c'est vraiment un grand jeu, Beyond Good and Evil, et ça tombe bien, je crois qu'il est maintenant jouable sur Xbox One via la rétrocompatibilité. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je suis à peu près sûr que non. Donc il est à nouveau accessible assez facilement. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande très très chaudement. Je parlais donc de célébration de la vie, et bien pour le prochain morceau, c'est de mort qu'on va parler. Je vous avais promis la mort, et c'est la mort que je vous délivre avec ce morceau Her Last Breath, au moins comme ça c'est clair, tiré de Phantasy Star 4, sorti en 93 sur Mega Drive. Alors les Phantasy Star, moi c'est un univers que j'adore, c'est un mélange de rétro SF plus ou moins, ça, tout en ayant trouvé un certain ton unique. Il y a des codes visuels, notamment avec les tenues des personnages qui font un peu penser à Star Trek, et je parle pas des remakes récents, hein, plutôt au vieux Star Trek où vous étiez en pyjama. Mais dans le même temps, tout ça fonctionne vraiment très bien, c'est très cohérent. Pour moi, c'est une grande série de jeux de rôle japonais. Et la scène qui va avec le morceau sélectionné, bon bah vous avez bien compris, hein, c'est la mort d'un personnage. Alors attention, spoiler, c'est Alice qui meurt. Ce qui est devenu une tradition dans la série, hein, puisque même dans le 2, il y avait aussi une mort très traumatisante. Et quand on joue à ce jeu, cette scène, elle donne tout simplement envie de chialer. Moi, j'étais un petit peu plus jeune quand même, en 93, avec ma manette, j'étais « Non, Alice, non !» Avec cette musique qui était derrière, c'était absolument terrible. Et pour moi, c'est bien plus fort que la mort d'Aerys dans Final Fantasy VII, hein, qui a marqué beaucoup de gens, surtout parce qu'ils connaissaient pas beaucoup de jeux de rôle avant celui-là. En fait, c'était pas très original, je suis désolé de vous dire ça. Et ceux qui ont joué à Phantasy Star 4 se rappellent forcément de cette scène. La musique y est pour beaucoup, et la BO de Phantasy Star 4 est très efficace, elle est très réussie dans son ensemble. Elle a été composée par Izuo Numata et Masaki Nakagaki. Et c'est une de ces BO où les musiques restent en tête. On continue de chantonner les mélodies longtemps après. Et ils ont été un petit peu culottés parce qu'ils ont fait des chansons, notamment comme celle qu'on vient de passer, qui sont en théorie très douces. Et pourtant, ils ont jamais cherché à adoucir le son plus cristallin de la Mega Drive. Et finalement, ça donne un cachet particulier qui s'éloigne de la rondeur de la Super NES qu'on imaginerait plus performante pour ce type de morceau. Mais ça marche, et moi quand je réécoute le morceau, je crois que j'ai à nouveau envie de pleurer. Allez, on sèche les larmes et on sort le gun.
On va débuter par cette phrase que vient de me dire Rhône. Et franchement, merci Creepers, hein, parce que c'est tellement rare qu'ils me disent des choses pareilles. Et oui, merci Creepers, parce que c'est vrai que dans Prey, on se rappelle pas forcément de la musique, et pourtant, la musique est incroyable, elle a été composée par Jeremy Soul. Mais revenons un petit peu déjà sur Prey. Dans la dernière émission, on a parlé de l'anti-Prey, en fait. Un jeu qui avait été très attendu, qui avait été survendu. C'était Duke Nukem Forever. Et au final, on s'est retrouvé devant un jeu complètement naze. Et au final, Prey avait été annoncé, presque annulé, recommencé, réannoncé, remontré. Et je crois que on approchait, je crois, de la dizaine d'années aussi de développement
sur Prey. Ça n'en finissait pas.
Et on envoyait des trucs. Et au départ, il y avait des portails. Mais au final, on tira peut-être pas de portails. Puis ils ont remis des portails. Et au final, on a un jeu de très bonne qualité. Moi, quand il est sorti, Prey, je l'ai pris directement. Je crois que c'est quasiment Day One que je l'ai pris. Malgré des critiques qui étaient un petit peu tièdes, parce que forcément, quand t'as attendu, les gens se disent, on nous avait promis ça, mais au final, on a peut-être que ça. Mais moi, j'ai pris ce qu'il y avait et j'ai passé une dizaine d'heures vraiment très très chouette.
Ouais, c'était chouette.
Le jeu était plutôt beau, donc on interprétait un indien qui devait aller récupérer sa fiancée qui avait été emportée par des aliens via des failles comme ça un petit peu. On passait en fait de via un gun ou je crois que c'était, je sais plus si c'était un gun ou c'est juste des portails qu'on pouvait déclencher comme ça. Et en fait on passait d'un univers à l'autre, donc de l'univers des aliens à la Terre. Et ce qui faisait que parfois on changeait de sens au milieu du niveau, on était la tête en l'air, la tête en bas, on bougeait de gauche à droite, enfin c'était assez impressionnant et techniquement c'était assez fort. Le jeu était plutôt joli, il y avait des armes qui étaient plutôt pas mal, en plus assez original. Donc franchement, après voilà, malgré le nombre d'années de développement, et ben moi j'ai passé un super moment. Et du coup, bien aidé par la musique de Jérémy Soule. Alors c'est la musique ouverture hein, qui donc débute le jeu, et ça on voit le pâté comme il faut, c'est épique, c'est une grosse musique orchestrale qui pourrait parfaitement se mettre dans un bon gros film de science-fiction.
En gardant le petit côté indien quand même, on l'entend aussi, le petit aspect ethnique là qui a son importance dans le jeu.
Ouais, bah en plus le personnage est vraiment bien mis en avant, il est pas juste indien comme ça pour faire joli, c'est vraiment vraiment intéressant au niveau de l'histoire du jeu. Enfin voilà, encore une fois, je vous invite vraiment à jouer à Prey. Et concernant donc Jérémy Soule, c'est quelqu'un qui a quand même bien roulé sa bosse puisqu'il a travaillé entre autres sur des jeux comme la série Elder Scrolls. Il a fait aussi les musiques des jeux Harry Potter, il a bossé sur du Guild Wars. Enfin voilà, c'est quelqu'un quand même de talent et qui travaille assez régulièrement dans le jeu vidéo. Et sur Prey, il a aussi été aidé par son frère Julian, qui lui est aussi compositeur, forcément, et avec qui il a fondé la société Artistic Entertainment. Donc voilà, Prey, je trouve que ça méritait d'être là, la musique est vraiment grandiose, et ça permet de rappeler à quel point ce jeu est plutôt chouette et encore agréable à jouer aujourd'hui. Allez, on passe nous aussi à travailler un portail temporel, et on se retrouve en 1997. Et donc nous voilà en 1997, alors vous aviez le choix entre le PC et la PlayStation, et on va parler de MDK, Murder, Death Kill, Meurtre, Mort, Détruire, dans Demolition Man, pour ceux qui ont vu ce superbe film avec Sylvester Stallone. Alors c'était un shoot'em up qui était produit par David Perry, qui était un peu une rockstar à l'époque, parce que le mec il avait fait Aladdin, il avait fait Earthworm Jim, enfin il avait le vent en poupe. Alors autant dire... Après, il a fait Matrix. C'était un peu moins bien. On peut tous se planter, hein, à un moment ou un autre. En tout cas, à l'époque, il était techniquement plutôt impressionnant, hein, ce MDK. Alors, ce qui était intéressant, c'était qu'il proposait des niveaux entièrement en 3D. Et par contre, le personnage, c'était un personnage en 2D. et qui était hyper bien animé. Donc du coup, il se déplaçait de manière super fluide dans ses grands grands niveaux. Donc ça faisait un effet un peu particulier, mais ça apportait justement, je trouvais, à la patte. En plus, le design du perso était assez fou. Il y avait un côté un peu pyramidal, triangulaire au niveau triangulaire au niveau de sa tête. Et ce qui était rigolo, c'est que donc il pouvait ouvrir sa tronche, et il y avait aussi une espèce de mode sniper qui nous permettait de zoomer jusqu'à 200 mètres. Donc l'effet était assez saisissant, en tout cas à l'époque, et le jeu était super nerveux. On avait aussi un parachute qui nous permettait de déambuler comme ça dans les niveaux, donc c'était un jeu.
Bien, ça.
Ouais, ça m'a laissé un très bon souvenir, MDK. Et donc, ce n'était pas seulement technique, parce que le jeu, vraiment, tout le monde en parlait pour son côté impressionnant visuellement, mais en termes de gameplay, c'était vraiment plutôt chouette, c'était un pur jeu d'action, mais on s'ennuyait jamais, il y avait un super rythme, et donc, en plus, ça envoyait le pâté, quoi. Concernant la bande originale, bah, c'est un taulier, encore une fois, il est venu plusieurs fois dans l'émission, et on salue Tommy Talarico, et lui, encore une fois. Donc, il a bossé, lui aussi, sur Aladdin, Mega Drive. Alors, c'est pas la meilleure version, on est tous d'accord, mais bon,
n'importe
c'est comme
quoi,
ça.
N'importe quoi, on va pas le refaire, mais. Ah là 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 là.
Non, c'est pas la peine. Mais en tout cas, il avait fait du super boulot à l'époque. Aladdin, il avait composé vraiment quelques musiques originales par rapport aux musiques de dessins animés qu'il avait réorchestrées pour la Mega Drive. Mais voilà, Tommy Talarico, bah voilà, c'est un grand de chez grand du jeu vidéo, et encore une fois, il est dans la Beatsbox. Puisque je viens de rappeler à l'humanité tout entière la supériorité d'Aladdin Super Nintendo, il est temps d'effacer de votre mémoire Aladdin Mega Drive. Et justement, puisqu'on parle d'effacer la mémoire, il est temps de changer de jeu.
J'avais très envie de parler du studio Dontnod, dont j'apprécie beaucoup le travail et que la plupart ont découvert avec Life is Strange. Mais avant, il y a eu Remember Me. Alors, histoire d'être honnête, hein, on va commencer par ça, autant l'avouer tout de suite, le jeu comportait pas mal de défauts avec un gameplay discutable, on va dire, et une histoire en fin de compte assez bateau avec un personnage amnésique en quête de son identité. Et aussi une action un peu en ligne droite permanente. Donc on peut dire comme ça, mais ça fait plein de défauts. Pourquoi tu nous parles de ce jeu ? Eh ben, parce que dans le même temps, le jeu décrit un univers formidable dans le Néo-Paris de 2084 qui est juste incroyable.
Je suis d'accord.
Visuellement, c'est hyper original avec beaucoup d'identité. Il suffit de regarder deux screens et on sait qu'on est dans Remember Me. Et le background du jeu est tout simplement génial.
Et puis l'héroïne est chouette en plus.
L'héroïne est chouette aussi, ouais, elle est très réussie.
Charismatique. Ouais. Moi, c'est, je suis un peu comme toi en fait. C'est un jeu qui a été, bah, c'est vrai qu'il y a des défauts, mais l'univers est tellement chouette et Paris est vraiment, on l'avait jamais vu comme ça. Visuellement, c'est hyper travaillé. C'est de chaque niveau. Moi, je m'arrêtais pour regarder un petit peu le travail de fou qu'ils avaient fait, quoi, en fait. Et tu dis pour un beat'em all un peu comme ça, de s'arracher autant. Alors c'est vrai que l'histoire est un petit peu bateau, mais moi, j'étais complètement emporté par l'univers et justement par la musique.
Et par la musique, ouais, mais et d'ailleurs, c'est même dommage, c'est peut-être là la petite frustration qu'on a avec ce jeu, c'est que le background et l'univers, ils sont tellement formidables qu'on a, bah, on aurait envie de liberté, quoi, de l'explorer. Oui, on sent que ça a été hyper réfléchi, hyper écrit, et que finalement, on voit un petit peu que la surface. Pourtant, la base, elle est super solide, puisque tout tourne autour de la matérialisation des souvenirs, qui est un sujet très dickien, en quelque sorte. On pourrait dire, et ceux-ci deviennent donc une marchandise comme une autre, donc on peut uploader des souvenirs, en effacer, et bien entendu, ben, ça pose de façon fondamentale la question sur l'identité, puisqu'a priori on est censé être la somme de nos expériences, sauf que si on en crée ou on en efface, on change notre propre personne, enfin ça pose pas mal de questions, sur lesquelles justement on n'a pas forcément toutes les réponses. Et moi, c'est un sujet qui me fait beaucoup penser au sous-estimé Strange Days, un film de Catherine Bigelow que j'adore. Et dans ce jeu, la musique a été composée par Olivier de Rivière, un sacré compositeur, hein, qui était déjà derrière Alone in the Dark, mais aussi, par exemple, derrière Assassin's Creed Black Flag. Et dans Remember Me, l'OST, elle est constituée de morceaux qui ont un vrai choix de conception. Elle est classique dans sa conception, mais elle est entrecoupée de cuts qui sont très marqués, alors tout en restant, hein, sur la mesure, un peu comme si la musique déraillait ou bien oubliait où elle était. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est fait exprès, parce que je trouve que le résultat est remarquable et colle tellement bien au jeu, en faisant penser à ces souvenirs qui s'effacent, qui déraillent, qui se répètent. Et personnellement, j'adore quand la musique colle avec le sens du jeu. Donc c'est très agréable pendant qu'on joue, mais l'OST s'écoute aussi très très bien toute seule. Donc Remember Me, si vous ne connaissez pas, ne serait-ce par curiosité, ça vaut que dalle aujourd'hui, ça vaut le coup quand même d'y jeter un œil.
La Beatsbox approuve.
Voilà, on vient de parler de SF intelligente, et si on parlait un petit peu de SF bien conne?
Attention, warning, il y a des requins bioniques, il y a des dragons cracheurs de laser, il y a des néons partout et de la musique qui pue le synthé. C'est un jeu fait pour moi, j'ai presque envie de dire, Rhône, c'est un jeu fait pour nous. C'est un jeu vrai. Hommage au cinéma des années 80. Alors, il utilisait l'excellent gameplay de Far Cry 3 et je me rappelle, alors si je dis pas de conneries, Far Cry 3 Blood Dragon, ils l'ont annoncé pour le 1er avril. Je crois que c'est un délire un peu de ce genre-là. Ils ont dit, tiens, on va annoncer Blood Dragon et personne va y croire. Mais si j'ai fait un bond, j'ai fait des saltos arrière et j'ai rebondi contre mes murs quand j'ai vu les visuels de ce jeu et je l'ai acheté direct parce que j'avais kiffé Far Cry 3 alors que j'avais vraiment pas aimé les anciens. Far Cry 2 était chiant et tout. Et donc du coup, là, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était banco, la ligne était tracée, j'avais plus qu'à foncer, à ouvrir mon portefeuille. Et bah, c'était de la balle. Moi, j'ai kiffé. Alors, il y a plein de petits défauts. Hein. Je vais pas dire que le jeu est parfait, etc. Mais alors là où je me trahis, c'est que je parlais tout à l'heure des trucs qui te mettent des coups de coude et tout ce que tu veux. Ouais. Bah, c'est même plus des coups de coude. Hein. Le mec, il te prend par l'épaule et dit, t'as vu, mec, t'as vu Terminator, là? Eh, mec. T'as vu Predator là? T'as vu Running Man à gauche là? Alors c'était un jeu qui était très rigolo parce qu'on sent que les gens se sont éclatés à le faire et qu'ils ont une vraie compréhension des codes du style du cinéma des années 80 et à aucun moment je trouve que c'est moqueur. Alors certains vraiment se moquent complètement de ces trucs là et là il y a vraiment de l'amour du cinéma des années 80 et dans la musique justement de Power Glove. Il y a plein de petits trucs mis par-ci par-là. Alors déjà la musique clair. En tant que telle est très chouette. Mais en plus, quand tu sens un petit peu le truc Terminator à côté, quand tu sens l'arrivée un petit peu des sons à la Predator, le tudu 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 tudu, c'est de la boulette quoi. Et à un moment, j'ai plongé dans l'eau, et là j'ai vu un requin bionique, et là j'ai dit, bon, allez, hop.
Ah, c'est gagné.
Non, je t'ai plus.
C'est gagné.
Non, je t'ai plus, c'est pour moi. Enfin, non, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Blood Dragon, et je l'avais fait sur 360 à l'époque. C'est que de l'amour pour moi, c'est que de l'amour et c'était en plus hyper agréable à jouer. Enfin bref, Blood Dragon, si tu aimes le cinéma bis des années 80, tente au moins ou écoute au moins la musique et tu verras, c'est un pied monstrueux. Et petite chose supplémentaire, un petit détail en plus, c'est qu'ils ont sorti un Trial of the Blood Dragon et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a refait la BO de ce jeu-là et j'ai même acheté le vinyle avec des vinyles tout rose fuchsia. C'est de la boulette. Non, et en plus, la BE est encore une fois monstrueuse. Donc voilà. Power Glove, je t'aime. Je t'attends chez moi. Si tu veux discuter un petit peu de cinéma des années 80, il y a moyen de s'éclater, mon pote, avec une bonne bière. Bon, allez, malheureusement, on va quitter les néons. Eh ouais, les mecs. On va un petit peu moins rigoler parce que c'est un jeu de rôle. Hein. Bon, bah voilà. C'est comme ça.
Je voudrais dire merci. Merci aux testeurs de l'époque d'avoir émis autant de réserves concernant Enslaved, Odyssey to the West. j'ai fini par l'acheter quand même, parce qu'il était pas très cher. Et pourtant, à la base, j'étais vraiment pas fan du studio Ninja Theory qui nous avait pondu un Heavenly Sword de sinistre mémoire. Et quand j'ai mis le jeu, mais quelle énorme surprise, c'est bien simple, j'adore ce jeu. Donc j'ai choisi de vous en parler car il dépeint un futur un petit peu différent de ce qu'on a décrit jusqu'à présent. C'est un futur désolé où les êtres vivants jouent un rôle finalement réduit, les traces de leur existence disparaissant, recouverts par la nature qui reprend ses droits et qui explose de couleurs vives à l'écran. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de fleurs également qui sont là.
Ouais, la direction artistique est magnifique, franchement.
Elle est superbe.
Ouais.
Ça donne une impression d'un à la fois un petit peu dual, la vie a disparu, mais en même temps c'est une sorte de célébration de la désolation et de la nature. Les deux choses sont tout à fait fonctionnent tout à fait bien ensemble. À l'inverse de par exemple The Last of Us où la désolation, c'est de la désolation quoi, il n'y a pas d'optimisme dedans. Et rien que ça donne un cachet visuel et une personnalité folle à ce jeu. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la relation qui s'installe entre les deux personnages principaux. Et ça, sans qu'il y ait des cinématiques de trois plombes avec des dialogues à n'en plus finir. Il n'y a pas besoin de ça, c'est juste des petites touches régulières. Et ça marche. Et on sent ces personnages qui s'attachent. Et dans le même temps, quand on joue, eh ben, on s'attache à ce couple formé par une aventurière et une sorte de mercenaire homme sauvage. Et voilà, ils vont trouver leur destinée ensemble, et il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Moi, j'ai vraiment beaucoup adhéré.
Ils savent bien écrire leur jeu, hein, Ninja Theory. Alors, dans Heavenly Sword, il y avait le jeu, pareil, j'aime pas vraiment le jeu, mais il y avait quand même déjà des petites touches où tu sentais qu'ils arrivaient à créer des personnages quand même assez forts. L'héroïne était quand même bien caractérisée, et dès leur deuxième jeu, tu sens qu'il y a c'est dans les rares à bien mélanger le côté cinématique, même cinématographique, et le gameplay d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que t'as une véritable narration inclue dans le jeu et qui te parasite jamais. Donc, il y a les dialogues même pendant les phases de gameplay. Même dans les jeux qui vont sortir après, parce que je trouve ce qu'ils ont fait avec Devil May Cry par exemple, bah ils ont réussi à rajouter un petit peu plus d'écriture à un jeu avec un très bon gameplay, et il y a vraiment un travail d'équilibriste qui était très bien fait dans Enslaved.
Alors si on revient à la musique, eh bien la BO n'est pas en reste, elle est superbe, c'est une très très belle OST qui est l'œuvre de Nitin Sawhney, un musicien qui a de nombreux albums à son actif et qui travaille régulièrement pour le cinéma. Pour les jeux, ben, c'est seulement avec Ninja Theory qu'il a travaillé, puisqu'il a signé également la BO de Heavenly Sword, alors que je ne connais pas, donc je ne ferai pas de commentaire dessus. Par contre, sur celle de Enslaved, c'est un petit bijou, ça fait partie de mes OST préférés, personnellement, qui alterne très très bien les morceaux qui sont épiques, qui soutiennent l'aventure et les beaux moments, comme ce No Death in Love au fort relent de Portishead qu'on vient d'écouter. Qui est envoûtant et qui provoque l'émotion à l'écoute. C'est une très belle chanson que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais la partager avec vous, chers auditeurs de la Beatsbox. Allez, on quitte l'émotion pour quelque chose d'un petit peu plus planant et pour le morceau que je préfère de toute la sélection de mon ami Creepers. Thank you.
Alors je vais reprendre ce qu'était en train de me dire Ron en off. J'adore cette musique, me dit-il avec cette voix virile qui le caractérise si bien. Et il faut dire, il a raison. Moi aussi j'adore cette musique et moi je lui ai répondu, tu sais Ron, on a reçu le vinyle en magasin, je vais dépenser 40 balles parce que je suis super saucisse. Et parce que le vinyle déchire aussi, hein, faut dire ce qui est. En tout cas c'est clair, cette musique elle est superbe, elle pose une ambiance, elle détend. Elle est composée par Ben Prunty, alors un compositeur de talent, et pourtant c'était sa première bande originale de jeu. Donc vous voyez le niveau du mec. Hein. Et donc ce jeu, bah, c'était Faster Than Light, un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui quand il est sorti en 2012, que c'était vraiment le jeu indé. Alors de mémoire, ça avait été kickstarté, et justement c'était un peu à l'époque où les premiers jeux kickstarté commençaient à débarquer, puis on se demandait est-ce que ça va être bien, est-ce que c'est un système qui tient la route. Et alors pourtant, c'est pas du tout un style de jeu que j'utilise ou que je parcours d'habitude, parce que c'est du jeu de stratégie en roguelike. Donc c'est un roguelike spatial, et je me suis pris au jeu. Donc c'est vu comme ça au-dessus du vaisseau, parce qu'on dirige en fait un vaisseau. Donc on vit une aventure, parce qu'on en fait on a récupéré une information qui peut nous permettre de gagner une guerre qu'on est en train de perdre. Donc on va dire on essaie d'avancer dans l'espace, mais à chaque tableau, on peut tomber sur une surprise différente. C'est-à-dire que dès que vous allez relancer le jeu, il y aura un truc différent. C'est le principe des roguelikes, c'est que ça change tout le temps. Et c'est géré complètement de manière aléatoire, et donc on peut se retrouver devant des pirates, on peut se faire attaquer, on peut avoir une fuite, et il faut réussir à survivre jusqu'au bout de l'aventure, et il faut réussir à gérer l'ensemble de son équipage pour arriver au bout. Et c'est un jeu qui m'a vraiment pris, j'étais vraiment dedans, alors que d'habitude c'est le genre de jeu qui m'embête un petit peu. Et une musique comme celle qu'on a écoutée, qui s'appelle Milky Way, et ben, en fait on est là en train de déambuler dans l'espace, et c'est cool. Tu laisses le temps passer, tu te dis t'es là avec ton équipe, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la bande originale de Ben Prunty, c'est qu'il fait une version classique quand on se balade dans l'espace, et une version un petit peu plus martiale qui justement appuie les phases d'action où on doit affronter des pirates ou nos ennemis, les rebelles. Donc voilà, c'est un petit chef-d'œuvre cette bande originale, et le jeu aussi je vous le conseille, il est régulièrement promo un petit peu partout, même si c'est un style assez particulier, c'est un jeu que j'ai adoré. Et donc, bah, il vous reste plus qu'à poser vos oreilles sur l'ensemble de la BO, parce que franchement, ça vaut le détour. Alors, puisque c'est l'émission des découvertes, et bah, encore une fois, Ron m'a fait découvrir un jeu. Et quel jeu ?
venez d'écouter Muse, le thème principal de Advent Rising, sorti en 2005 sur Xbox, sur PC. Alors Advent Rising, c'est un jeu qui décrit un univers typique de space opéra, très axé sur les pouvoirs militaires, les intrigues entre les planètes. On peut pas dire qu'il y ait énormément d'originalité, même visuellement c'est un peu un pot-pourri d'autres jeux, et on pense pas mal à Halo notamment, qui était contemporain, et des films spatiaux qu'on peut connaître. Dans le même temps, le jeu est incroyablement ambitieux, il devait y avoir plusieurs épisodes et il était trop ambitieux. On a un design pas très original, un gameplay qui est pas extraordinaire, mais surtout une technique qui a vraiment du mal à suivre. Et pourtant, ce jeu, il a fait son chemin dans le cœur de pas mal de joueurs pour une raison, et ça tombe bien, c'est le sujet de notre émission, sa musique. Donc je pense que vous avez pu l'apprécier avec le morceau qui vient de passer, que personnellement j'adore. D'ailleurs, je vous le dis franchement, l'OST d'Advent Rising est dans mon top 5 de mes OST préférés. Je la trouve absolument fantastique. Autant dire que c'est une des meilleures OST qui a jamais été faite. Et ouais, carrément. Les envolées, plus l'aventure, l'héroïsme, l'envie de partir dans l'espace. Et en écoutant l'album, justement, on s'imagine très bien dans l'espace. On s'imagine en train de piloter un vaisseau agile et puissant, slalomant entre les météores, volant vers une planète encore inconnue et pleine de mystères. Et qui est derrière cette musique? Eh ben, un de nos petits chouchous, Tommy Tallarico.
Oh là là.
Encore lui. Et c'est là qu'on voit le talent du bonhomme, hein, on en a déjà parlé plein de fois, connu notamment pour Earthworm Jim. Quel est le point commun entre Earthworm Jim et Advent Rising? À part Tommy Tallarico, aucun. Et c'est là qu'on peut mesurer le talent de ce type, qui est capable de s'adapter à n'importe quel support, n'importe quelle technique, n'importe quel type de jeu, et nous sortir des balles. C'était Advent Rising. Là, si vous voulez craquer pour vous acheter un disque, allez-y. Vous serez pas déçus, je vous le garantis. C'est donc sur Advent Rising que l'on va se quitter, car et oui, c'est la fin de l'émission, on va devoir atterrir à nouveau. Alors si vous aimez les morceaux qu'on vous passe, essayez bien d'attraper le nom des auteurs qui sont derrière. Vous pouvez souvent trouver beaucoup de choses sur Bandcamp ou sur Spotify, ou même aller jeter un petit coup d'œil sur Amazon pour acheter les disques. Également, souvent, quand vous achetez des jeux, pour 2€ de plus, vous avez l'OST. C'est comme ça qu'on se fabrique une jolie collection. Ou alors, vous pouvez faire comme Creepers, notre super saucisse nationale, qui lui achète tous les vinyles qui passent, n'est-ce pas?
Eh oui, et en plus, je les commande maintenant, donc je suis dans la merde absolue. En plus, tu parlais de Spotify, et je viens de découvrir aujourd'hui même, alors je sais pas comment on appelle ça sur Spotify, mais on peut s'abonner à une espèce de chaîne où il y a toutes les musiques Sega. T'imagines? Ah oui, pour toi c'est le pied. Donc tu as Outrun, tu as Street of Rage, tu as même des jeux plus récents. Je crois qu'il y a aussi Sonic CD. Enfin ouais, il y a des trucs assez cool. Hein. De toute façon, les musiques de Sega, on le sait, on en passe assez souvent. Enfin, tu nous obliges à en passer souvent, on va dire. Donc les musiques sont vraiment très très chouettes. Donc ouais, même sur Spotify, il y a de plus en plus de bandes originales de jeux, ce qui me permet d'ailleurs d'écouter tranquillement dans le train et de préparer notre tracklist. Hein. Donc ouais, essayez de retenir les noms, d'écouter le maximum de choses, parce que franchement, c'est là où on voit la variété des musiques de jeux vidéo. On est là pour en parler, mais il y a de quoi faire un petit peu partout. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez. Mais si vous avez aimé, comme d'habitude, on vous demande de partager, de liker, de mettre des étoiles sur iTunes, ce qui nous permet de revenir dans les tops et d'être découvert par encore plus de monde. Et d'ailleurs, on aimerait vous remercier parce que on a l'impression que vous aimez les mauvais jeux, puisque la dernière émission a été particulièrement partagée et appréciée, puisqu'on est vraiment monté d'un seul coup au niveau des téléchargements. Donc merci beaucoup. Merci à ceux qui se sont abonnés et qui ont découvert un petit peu cette émission grâce à cette spéciale mauvais jeu avec des bonnes musiques. Donc j'espère que les nouvelles émissions, même les anciennes, vont vous faire passer un super moment. Et puis Ron, nous on se donne rendez-vous le mois prochain.
Et pour le générique de fin, c'est un invité spécial que nous avons, puisque c'est JM Bat, un de nos fidèles auditeurs, qui nous fait une reprise du dernier morceau de Moucha à l'Est à la guitare. Enjoy.
À bientôt les amis.